Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et voici les enjeux internationaux. Samedi dernier au Niger, la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet a annoncé mettre fin à un accord de coopération militaire avec les États-Unis. Si la France s'était retirée du pays fin décembre, les Américains conservaient encore certaines bases militaires au Niger du fait d'un lien historique avec Niamey. Cette annonce tourne-t-elle la page de la présence occidentale au Sahel? Que sait-on de l'évolution de la présence des forces militaires russes dans la région, notamment après la mort du chef de Wagner, Prigogine. En août dernier, bonjour Nina Vilaine.
Bonjour.
Vous êtes politiste et directrice du programme Afrique à l'Institut Egmont, professeur en sciences politiques à l'Université de Lund. Alors jusqu'à présent, le Niger était considéré par les États-Unis comme leur principal allié en Afrique de l'Ouest. Quels étaient les accords de coopération militaire entre ces deux pays ?
Il y a eu plusieurs différents types de collaboration entre les États-Unis et le Niger. Il y a notamment eu cet fameux accord depuis 2012, qui est un accord en SOFA, donc qui explique le libre mouvement de troupes américaines sur le territoire nigérien, qui est assez classique. Mais le Niger a fait partie de plusieurs initiatives dans la région que les États-Unis a débuté depuis encore plus que 20 ans. En 2003, les États-Unis a commencé avec une initiative qui s'appelait l'initiative pan-sahélienne pour éduquer les forces, pour former et équiper les forces dans 4 pays sahéliens, entre autres Niger. Donc, il y a une longue collaboration militaire entre les deux pays.
Et une coopération qui passait notamment par des investissements assez importants de la part des États-Unis.
Oui, il y a une construction d'une base de drones dans le nord de Niger, à Agadez, depuis 2016, qui a été opérationnelle depuis 2019, plus ou moins, qui a coûté plus que 200 millions de dollars. Alors, c'est une base chère, si on regarde objectivement. Pour les États-Unis, c'est pas une somme énorme, mais pour l'Afrique, c'est quand même un investissement important, parce que ça, c'est le plus grand base de drones dans l'Ouest d'Afrique pour les États-Unis.
Et quels étaient les intérêts respectifs de ces deux pays? Pourquoi le Niger avait-il accepté cela? Et pourquoi les États-Unis trouvaient un intérêt à cette coopération militaire avec le Niger?
Le Niger se trouvait au centre, ou se trouve encore au centre de pays sahéliens jusqu'à le coup l'été passé. C'était considéré comme une sorte de, pas d'un oasis, mais quand même un pays qui était plus stable que ses voisins. Et il y avait un président qui était démocratiquement élu. Et c'était vraiment le pays qui avait accepté le plus de forces occidentaux sur son territoire. Et donc, le Niger se trouvait dans une situation où il y avait une expansion des groupes djihadistes autour d'elle. Il y avait aussi un intérêt de Niger de continuer des collaborations militaires et de défense avec ses différents partenaires. Donc, il n'y avait pas seulement les États-Unis. Vous avez déjà noté qu'il y avait la France avant ça, mais il y avait aussi des autres partenaires occidentaux qui étaient sur le territoire nigérien pour augmenter la capacité des forces locales de combattre les différents groupes non étatiques et armés.
Bon, alors donc, on voit bien donc effectivement l'intérêt de ces deux pays. Et puis arrive la rupture avec les États-Unis. Et là aussi, comment l'expliquer? Pourquoi celle-ci intervient-elle, Nina Vilaine?
Il faut le mettre dans un contexte plus grand, je pense, parce que depuis septembre 2023, il y a cette alliance des États sahéliens entre les États qui ont subi des coups récemment, donc Mali, Burkina Faso et Niger, où ils ont déclaré qu'ils ont créé une alliance de défense contre l'influence externe ou contre toutes sortes d'interventions externes, qui était une sorte de mise en garde pour l'organisation de West Afrique, Africain Ouest, CDAO, qui avait menacé le Niger, au Niger, une intervention militaire pour restituer le président élu, président Bazoum, après le coup en juillet l'année passée. Et en réponse à cette menace d'une intervention militaire, le Niger avait dit qu'on va combattre des forces de CDAO. Et Mali et Burkina Faso, ils ont dit la même chose. On va les interpréter comme une déclaration de guerre contre notre propre État si le CDAO intervient au Niger. Donc ça, c'était le contexte avant cette construction ou cette création de l'alliance des États sahéliens. Et après, il faut aussi savoir qu'au Mali, il y avait déjà des groupes de Wagner, donc des groupes de troupes russes depuis 2021, et le Burkina depuis le deuxième coup en 2022, en septembre 2022, le capitaine Traoré, qui est le leader de Chant au Burkina, il a déclaré que Poutine, c'est une de ses alliés stratégiques principales. Donc, il faut voir la décision de Niger, ça s'inscrit dans un contexte régional où ces deux alliés principal maintenant, Niger, Mali et Burkina Faso, ils sont déjà pivotés vers la Russie et Niger était donc le troisième pays dans cette alliance de prendre cette décision.
Et ce qui est particulièrement frappant pour ces trois pays que vous citez, Nina Willen, il y a effectivement une volonté de plus en plus forte de tourner le dos à l'Occident. Et l'Occident est perçu comme étant ce qu'il faut bouter hors d'Afrique.
Oui, il y a une sorte de... on ne va pas l'appeler
d'anti-occidentalisme. Est-ce que vous trouvez ça justifié?
Si le justifier, non.
Est-ce que vous trouvez que le terme est adapté?
Le terme est adapté. Je pense qu'on bascule dans quelque chose de plus grand que juste des sentiments anti-français qui a été le trend jusqu'à maintenant de parler que tous les pays dans cette région, à part le Tchad, évidemment, a eu des sentiments très forts anti-français et que la France a vraiment été expulsée avec une grande force. Mais ça va plus loin que la France. Il y a vraiment une volonté de se libérer, avec marque de citation, de toutes sortes d'accords qui pourraient être interprétés comme limitant leur souveraineté. Donc il y a une volonté très forte de montrer qu'ils sont en pouvoir, qu'ils sont souverains, et surtout aussi il y a une volonté de rester en pouvoir, donc de rester, de pas aller vers des transitions ou des élections où ils pourraient perdre. Donc s'il y aura des élections dans un de ces trois pays, ce sera des élections qui sont très fort manipulées depuis les débuts, ou on peut aussi dire qu'il y a certaines parties de la population qui soutiennent ces chants jusqu'à maintenant. Mais l'idée, c'est de rester en pouvoir, et ça, c'est quelque chose que la Russie puisse offrir à ces gens. Est-ce que les Occidentaux ne viennent pas avec des offres si clairement vissées vis-à-vis de gens militaires?
Oui, alors ce que l'on comprend mal, donc, c'est effectivement ce que vous venez d'évoquer. Puis alors, à la fois, le rapprochement avec la Russie, parce que on voit mal quels sont les atouts que la Russie peut offrir en termes de démocratie, de liberté à ces pays africains.
Oui, c'est clairement pas la démocratie que la Russie va offrir, et c'est assez ironique que la Russie, il a une narrative qui est très anticolonialiste. C'est sur cette narrative qu'elle essaye d'augmenter son influence en Afrique en disant que nous, au moins, on n'était pas des pouvoirs ou de puissance coloniale en Afrique. Nous, on vient comme des libérateurs, alors que c'est le même pays qui est en train d'avoir une guerre colonialiste sur le territoire européen aujourd'hui. Mais c'est avec cette narrative et aussi le narratif de souveraineté que la Russie vient en Afrique en disant que voilà, vous êtes des pays souverains, on accorde sur vos souhaits. Et ça, c'est évidemment des offres très attirantes pour des gens militaires qui voudraient rester en pouvoir et essayer de continuer d'éviter de suivre des règles et de constitutions qui sont clairement évitées pour prendre le pouvoir.
Donc, effectivement, on voit mal comment la Russie peut représenter véritablement un salut pour ces pays. Aujourd'hui, cette présence russe au Niger, au Mali, au Burkina, comment peut-on l'estimer? Comment elle se concrétise?
Donc, au Mali, on sait qu'il y a plus ou moins entre 1000 et 1500 troupes de Wagner, donc l'ancien groupe qui était lié à le Prigozhin, qui continue à lutter contre les différents groupes terroristes, djihadistes et non étatiques. Et ils ont récemment aussi pris pris possession d'une mine d'or, Intaka, au Mali. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'ils sont là pour le long terme. Et au Burkina, on sait que depuis janvier, il y a au moins 100-200 troupes russes. Maintenant, ils sont renommés, regroupés le Wagner Group ou reformatés le Wagner Group à appeler Africa Corps.
Oui, ce qui est un nom charmant.
Un nom charmant qui est aussi daté depuis le Deuxième Guerre mondiale avec le Africa Corps d'Allemagne dans le nord d'Afrique. Et donc, n'importe comment on appelle ces troupes, c'est des troupes qui sont fort liées directement à la défense russe. Donc, on parle pas plus de mercenaires, on parle plus de influence implicite. C'est vraiment une influence, une stratégie explicite d'expander leur influence en Afrique plus largement et maintenant explicitement au Sahel.
Merci beaucoup, Nina Whelan. Je rappelle que vous êtes politiste et directrice du programme Afrique à l'Institut Egmont. Dans quelques instants, eh bien, figurez-vous que nous serons en compagnie d'Alexandra Delbo. Celle-ci va évoquer un candidat vaccin contre le virus Nipah.